Bonjour, nous sommes le vendredi 20 décembre 2024. Nanit Talani à ce micro vous souhaite au nom de toute l'équipe de la VOA la bienvenue à ce journal au menu réforme à la tête de l'armée en RDC. Tshisekedi remplace le chef des forces armées et des commandants clés. Kinshasa met en garde Kampala après des menaces du fils du président ougandais. Nigeria, 35 enfants périssent dans une bousculade lors d'une fête foraine à Ibadan. Cyclone Chido, le Mozambique déplore 73 morts. Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Donald Trump pour discuter de la situation en Ukraine. En magazine, nous reviendrons sur les survivants de Bicicero qui déposent un pourvoi en cassation contre l'opération turquoise, accusant l'armée française de complicité dans les massacres des Tutsis.
Nous avons constaté que la cour d'appel n'avait pas appliqué la loi comme nous l'entendons et comme elle doit être entendue.
Notre rendez-vous sportif met à l'honneur l'équipe sud-africaine de football pour aveugles qui participe à son premier tournoi international à Moscou. Sans oublier l'économie, voici le journal. Le président congolais Félix Tshisekedi a procédé à un vaste remaniement au sein des forces armées en remplaçant le chef d'état-major Christian Tshiwewe Tshotshinga ainsi que de nombreux hauts responsables militaires ont rapporté jeudi les médias d'État. Le lieutenant général Jules Bonza Mwalambwe succède à Tshiwewe Tshotshinga, mais la télévision nationale n'a pas précisé les raisons de cette révocation. Parmi les autres changements notables figure le remplacement du chef du renseignement militaire et de plusieurs commandants, y compris ceux responsables des opérations de sécurité dans l'est du pays, une région particulièrement instable, exacerbée depuis 2022 par l'insurrection des rebelles du M23. Ce remaniement intervient après celui d'octobre 2022, quand Tshisekedi avait nommé Tshiwewe à la tête de l'état-major dans le cadre d'une réforme du secteur de la défense visant à renforcer son efficacité. Kinshasa a mis Kampala en garde après les propos polémiques du fils du président ougandais et chef d'état-major de l'armée de son pays. Le général Muhoozi Kainerugaba menace de s'attaquer aux mercenaires blancs actifs aux côtés des forces armées de la RDC dans la guerre contre les rebelles du M23. Le point avec Eddie Isango.
La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a convoqué mercredi dernier le chargé d'affaires intérimaire ougandais à RDC. Elle lui a demandé des explications sur les récents propos du général Muhoozi Kainerugaba, commandant en chef des forces de défense ougandaises et fils du président ougandais Yoweri Museveni. Elle veut une clarification sur la série des messages postés sur les comptes ex du général menaçant de faire la guerre aux mercenaires blancs qui sont aux côtés de l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Je vais donner un seul avertissement à tous les mercenaires blancs opérant dans l'est de la RDC. À partir du 2 janvier 2025, nous attaquerons tous les mercenaires dans notre zone d'opération, stipule un de ces postes effacés peu après avoir été publié. Le chargé d'affaires a promis aux reporters, après la rencontre, de transmettre le message à Kampala. Museveni a présenté des excuses après des menaces du même genre de faire la guerre au Kenya émanant du même général en 2022.
23 proches du leader de l'opposition tchadienne, Yaya Dillo Diérou, tué par l'armée en mai 2024, ont été libérés après plusieurs mois de détention. Ils avaient été arrêtés après l'assaut militaire contre le siège du Parti socialiste sans frontières, lors duquel Dillo a été tué. D'après un membre de la famille sous anonymat, sur les 23, deux se portent bien. Pour le reste, ils sont complètement affaiblis. Parmi les détenus, le secrétaire général du PCF, Robert Gam, n'a pas été libéré. L'annonce officielle de leur libération devrait se faire à l'occasion de la cérémonie d'élévation au grade de maréchal du président Mahamat Idriss Déby Itno, prévue samedi d'après des sources concordantes. Au Nigeria, au moins 35 enfants sont morts et 6 autres grièvement blessés dans une bousculade. Le drame est survenu lors d'une fête foraine organisée au sein des locaux d'un lycée dans la ville d'Ibadan. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Jusqu'à présent, 35 mineurs ont été déclarés morts, tandis que 6 autres sont grièvement blessés et bénéficient de diverses interventions médicales, a déclaré dans un communiqué Adewale Osifeso, porte-parole de la police de l'État d'Oyo. 8 personnes ont été arrêtées, dont le principal sponsor de la fête foraine organisée par la Fondation Wings et la station de radio locale à Gidigbo FM. Une enquête a été ouverte à la section des homicides du département des enquêtes criminelles de l'État d'Oyo, a déclaré M. Osifeso. Le président nigérien Bola Tinubu a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et à la population de l'État d'Oyo, ainsi qu'aux familles en deuil, a annoncé un communiqué de la présidence. Il a exhorté le gouvernement de l'État d'Oyo à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Il réclame également un examen complet des mesures de sécurité pour tous les événements publics, une application stricte des règlements de sécurité, ainsi que des audits réguliers pour évaluer la sécurité des lieux où sont organisés des événements, a précisé le document de la présidence.
Le cyclone Tido a provoqué la mort d'au moins 73 personnes au Mozambique, d'après un bilan publié hier. Jacques Aristide nous en dit plus.
Au Mozambique, le décompte des victimes du cyclone qui a frappé le continent africain dimanche, après avoir dévasté l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien, a grimpé d'une trentaine de morts en une journée. En plus de provoquer près de 550 blessés, la dépression a complètement détruit environ 40 000 habitations de ce pays parmi les plus pauvres de la planète, d'après ce nouveau bilan. Près de 330 000 personnes sont affectées par cette catastrophe naturelle dans l'État lusophone, principalement dans la province de Cabo Delgado dans le nord. La dépression, bien qu'ayant perdu en intensité en s'enfonçant dans les terres, a poursuivi sa course lundi 500 km plus loin jusqu'au Malawi, où les autorités y avaient enregistré 13 décès avant-hier en lien avec la tempête. L'UNICEF craint la propagation par l'eau de maladies comme le choléra, la malaria, la diarrhée, qui selon l'agence onusienne, sont particulièrement dangereuses pour les enfants. Quant au président français Emmanuel Macron, il a déclaré hier à Mayotte que l'objectif était d'approvisionner toutes les communes de l'archipel français touchées par Chido en eau et nourriture d'ici dimanche soir au plus tard par le truchement de largage par hélicoptère.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé hier une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour le Soudan, comprenant de la nourriture, des abris et des soins de santé, alors que ce pays est confronté à un conflit qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes et créé la plus grande crise de déplacement au monde. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Soudan, M. Blinken a insisté sur la nécessité urgente d'acheminer l'aide rapidement et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vladimir Poutine s'est dit jeudi au cours de sa séance annuelle de questions-réponses télévisées prêt à rencontrer à n'importe quel moment le président élu américain Donald Trump. Ce dernier a récemment appelé à un cessez-le-feu et à des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Davantage avec John Lindon.
Cette longue conférence en direct, bien que soigneusement mise en scène, constitue l'une des rares occasions de poser des questions délicates au président russe pour les journalistes et les citoyens de son pays. L'émission, qui a duré cette année près de 4h30, a eu lieu à un mois du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Le républicain, déjà président de 2017 à 2021, a maintes fois promis de rétablir la paix en Ukraine en 24 heures et a appelé à en cesser le feu immédiat ainsi qu'à des pourparlers. Mais le flou qui entoure son plan suscite l'inquiétude de l'Ukraine. Si nous rencontrons un jour le président élu Trump, je suis sûr que nous aurons beaucoup de choses à nous dire, a lancé Vladimir Poutine, qui a par ailleurs laissé entendre qu'il n'a pas parlé avec Trump depuis plus de 4 ans. Vladimir Poutine a aussi assuré que la Russie était prête à un dialogue avec l'Ukraine, mais uniquement sur la base des réalités du terrain, une façon de dire que son pays ne rendrait pas les territoires conquis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voici à présent les dernières tendances économiques à retenir, tant en Afrique qu'à l'international, avec Eric Manirakiza.
En Guinée, la justice a inculpé et placé sous mandat de dépôt jeudi le directeur général des douanes du pays et 10 autres responsables pour le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens, soit 76,7 millions d'euros. Moussa Camara, son adjoint Macky Agrébi Diallo et les 9 autres responsables douaniers sont poursuivis pour faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité, selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ils avaient été arrêtés puis placés en détention à la prison de Conakry début décembre. Le département américain du commerce a annoncé mercredi le versement de 458 millions de dollars à destination du géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix afin de soutenir son investissement dans une usine d'emballage de puces spécialisée dans l'Indiana. L'investissement de près de 3,9 milliards de dollars doit permettre de remplir un manque critique dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs aux États-Unis. L'investissement prévoit également le développement d'une structure de recherche et développement avec l'université Purdue.
C'est maintenant l'heure de notre segment sportif avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nous parlons ce matin de football pour aveugles. L'équipe sud-africaine a des défis et des espoirs.
Oui Nanit, cette première équipe nationale sud-africaine de football pour aveugles veut briller à Moscou, où a débuté mercredi le tournoi international inaugural de football pour aveugles BRICS Plus. Avant de décoller pour la capitale russe, joueurs et staff ont ouvert leur séance d'entraînement à la presse. Suivez. À Johannesburg, ces joueurs de football se préparent pour le plus grand match de leur vie. Le défi consiste à contrôler un ballon qu'ils ne peuvent pas voir. Il s'agit de la première équipe officielle de football pour aveugles d'Afrique du Sud. Ils doivent surmonter d'énormes obstacles pour représenter leur pays lors du premier tournoi international de foot pour aveugles organisé cette semaine à Moscou par le groupe BRICS Plus. Simpiwe Dubé, capitaine de l'équipe sud-africaine de foot pour aveugles.
Notre objectif est d'aller en Russie pour dire aux Sud-Africains, aux personnes atteintes de cécité et aux malvoyants que nous sommes là pour eux.
Le football pour aveugles se joue avec des masques pour les yeux et un ballon muni d'une cloche. Les joueurs crient pour indiquer leur position sur le terrain. L'équipe sud-africaine compte 2 joueurs totalement aveugles et 5 joueurs malvoyants ainsi qu'un gardien de but voyant. Elle affronte des équipes professionnelles et semi-professionnelles de 6 autres pays. La plupart des membres de l'équipe sont issus de milieux défavorisés. Ils doivent faire face à un manque de ressources pour l'entraînement de base et les déplacements.
Nkosana Kubeka est de l'Association pour les aveugles de Johannesburg.
Il s'agit de savoir si vous avez des articles de toilette, des vêtements chauds, des chaussures pour vous rendre en Russie.
L'Association pour les aveugles de Johannesburg héberge 5 des joueurs. Son directeur des opérations, Nkosana Kubeka, explique que son groupe a eu du mal à collecter des fonds pour leur voyage. Et il estime que ce n'est pas normal alors qu'il représente désormais le pays.
Ils sont maintenant des joueurs nationaux. Le gouvernement devrait les reconnaître et tout devrait être officiel.
Néanmoins, l'équipe est prête.
Wiseman Makonzo, vice-capitaine de l'équipe sud-africaine de foot pour aveugles.
Nous voulons jouer au football et nous voulons apporter quelque chose à la table. Je veux que ma mère soit fière de moi.
L'entraîneur Mlungisi Nsibi se dit fier de l'évolution de ses protégés.
Les messieurs sont vraiment, vraiment bons. Ils n'ont pas de ressources, ils ne sont pas payés. Nous allons participer à un tournoi où des gens sont payés, où ils jouent au football aveugle à un niveau professionnel. Tout ce que nous avons, c'est du cœur, mec. Et pour moi, c'est suffisant.
L'histoire de l'équipe de football pour aveugles d'Afrique du Sud n'est pas seulement celle d'un tournoi sportif. C'est une histoire de résilience, de détermination, de volonté de faire une différence, de la capacité à surmonter l'adversité et de la volonté de se faire une place dans le monde du sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours avec vous. Avant de clore ce journal, passons en revue nos dossiers du jour. Les parties civiles ont annoncé un pourvoi en cassation pour relancer l'affaire des massacres des Tutsis à Bisesero en 1994. Elles accusent l'armée française et l'opération turquoise de complicité de génocide. Parmi elles figurent des associations comme Survie, Ibuka, Fideh, LDH, LICRA et six rescapés de Bisesero. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Paris Maître Plouvier, l'un des avocats de l'association Survie.
L'association Survie et d'autres parties civiles ont décidé de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 11 décembre 2024, dit arrêt Bisesero, dans lequel nous avons constaté que la Cour d'appel n'avait pas appliqué la loi comme nous l'entendons et comme elle doit être entendue. D'une part, les règles du procès équitable ne nous paraissent pas avoir été respectées dans la mesure où la Cour d'appel refuse d'effectuer des investigations supplémentaires sur la chaîne de commandement qui a existé entre le théâtre des opérations à Bisesero et la hiérarchie politique et militaire française, c'est-à-dire jusqu'à Paris et jusqu'à l'Élysée, comme l'a démontré la commission d'historiens. Et d'autre part, nous estimons que la loi a été mal appliquée s'agissant de la qualification juridique de complicité de génocide par abstention. Étant rappelé que dans l'organisation judiciaire française et dans la procédure pénale française, il ne s'agit pas de refaire un troisième procès ou un troisième niveau, il s'agit de demander à la Cour de cassation si la Cour d'appel a ou non bien appliqué nos droits et les conventions.
Pensez-vous avoir gain de cause pour casser ce jugement ?
Nous avons au contraire gagné une première fois puisque les juges avaient fait eux-mêmes une mauvaise application de la loi. C'est pour ça que la première décision des juges avait été purement et simplement annulée. Donc c'est la première fois que la Cour d'appel était dans l'obligation de statuer sur le non-lieu ordonné par les juges. Et c'est cette décision nouvelle que nous contestons. Les chances de gagner, nous verrons bien ce que la Chambre criminelle décidera, mais disons que les arguments que nous présentons sont des arguments qui me paraissent tout à fait sérieux et on a le sentiment dans cette affaire que la France et les autorités judiciaires françaises n'ont pas très envie de faire des investigations poussées sur l'action des militaires sur un théâtre d'opération étranger. Il faut tout de même rappeler qu'il ne s'agit pas de n'importe quel délit ou crime, il s'agit du crime de génocide et d'une abstention volontaire des militaires français d'intervenir du 27 au 30 juin 1994 sur le théâtre des opérations de Bisesero, entraînant par là des massacres pendant 3 jours, alors que la France avait l'obligation, selon une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'intervenir, y compris aux besoins de la force, qu'elle en avait les moyens militaires et qu'elle savait très bien qu'à quelques centaines de mètres des patrouilles qui étaient sur place, des personnes étaient en train d'être massacrées. Donc c'est cette abstention criminelle que nous estimons devoir être jugée en France pour ceux qui ont refusé d'exécuter ce devoir d'assistance auprès de personnes en péril et de toute la chaîne de commandement militaire et politique qui a dirigé cette opération à Bisesero.
L'avocat pénaliste maître Éric Plouvier, l'un des avocats de l'association Survie.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Avec la propagation de fausses informations sur les médias sociaux, les journalistes du Mozambique sont en première ligne dans la lutte contre la désinformation. Voici le reportage d'Amarilis Goulet depuis Maputo. Le récit est de Rosine Munezero.
Ambo Vanessa Lizzi, créatrice de contenu à Boa, naviguait sur les médias sociaux lorsqu'elle a appris que le président du Cameroun, Paul Biya, est décédé. Sans aucun moyen de vérification, elle a attendu une communication officielle jusqu'à ce que le gouvernement publie une déclaration démystifiant les rumeurs sur la mort du président, les qualifiant de pure fantaisie.
Dans la mesure où nous voulons le changement, je ne souhaite la mort de personne.
Les désinformations comme celles qui concernent le président seront probablement fréquentes en particulier lorsque les Camerounais se rendront aux urnes l'année prochaine.
Je me prépare donc déjà à faire face à toutes les informations électorales qui pourraient survenir.
Jude Mbaku étant notre journaliste, rédacteur en chef de DMR TV Boua, un des principaux vérificateurs de faits dans une région précédemment touchée par la désinformation. Jude Mbaku dit qu'il a vu des groupes utiliser les médias sociaux pour tromper le public, ce qui a eu des conséquences importantes.
Lorsque les Lions se sont rendus en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations, la rumeur a couru que Jay Clinton avait démissionné de l'équipe. Et ce sont les combattants séparatistes qui ont le plus propagé cette rumeur. Cela n'a pas été fait par erreur. C'était bien ficelé et bien préparé pour désinformer.
Madame Karloff explique que les journalistes camerounais sont confrontés à de nombreux défis pour rendre compte avec précision de la situation, notamment le manque de moyens financiers, les risques en matière de sécurité et l'accès restreint à l'information.
Je suis allé à la délégation régionale des transports pour demander les statistiques des véhicules immatriculés dans le sud-ouest, en particulier à Bouéa. Et on m'a dit d'aller me mettre sur la route pour commencer à compter les voitures moi-même.
Malgré ces défis, des experts comme le professeur Kingsley Ngangé, boursier Fulbright et formateur en journalisme soulignent l'importance de l'éducation aux médias et de l'éthique journalistique.
Il faut continuer à faire pression pour obtenir des lois qui garantissent l'accès à l'information. Au Cameroun, la Constitution le prévoit, mais nous n'avons pas encore de loi sur l'accès à l'information.
L'augmentation de l'utilisation des médias sociaux a conduit à une augmentation de la désinformation au Cameroun, faisant de la vérification des faits une tâche ardue pour de nombreux journalistes. Pourtant, les journalistes affirment qu'ils restent déterminés à lutter contre les effets néfastes de la diffusion de fausses informations.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La fièvre des fêtes de fin d'année bat son plein au Bénin. Comme d'habitude, l'approche de la fête de Noël, le moment favorable à la vente des jouets de tout genre, étalage toujours garni, clients encore rares, commerçants attristés. C'est le constat fait au niveau de plusieurs stands de vente d'articles de fête ou de jouets sur les grandes artères de la ville de Cotonou. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Au Bénin, le refrain reste le même à l'approche des fêtes de fin d'année. Les enfants attendent de leurs parents des cadeaux comme l'exige la tradition depuis des lustres. Mais entre méventes, rareté des clients, les commerçants ne savent où donner de la tête. Âgé de la trentaine, Alexis pensait pouvoir faire des chiffres cette année.
Comparativement aux années précédentes, cette année, peu de gens sortent pour venir voir les articles que nous avons. Et même de ceux qui viennent, peu arrivent à prendre quelques jouer. Donc le marché n'est pas tel qu'on l'aurait souhaité. Mais on essaie de voir à notre niveau comment jauger cela, comment arranger cela pour que le client soit satisfait.
Nous sommes à une semaine de la fête de Noël. En attendant les clients, certains égrènent leur chapelet appelant tous les saints à la rescousse.
On ne sent encore rien, les clients ne sortent pas encore. On espère les voir avant la veille Noël.
Il y a quelques-uns qui viennent demander les prix. On va revenir. Par contre, d'autres viennent. Si c'est un petit truc, ils achètent. C'est ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Il y a tout. Même il y a des trucs de 1000 francs, de 500 pour les enfants. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'acheter grand-chose. Même avec 500 francs, tu vas trouver un bon jouet pour ton enfant.
Une panoplie de jouets sur les étalages et les carrefours spécialement aménagés pour la vente des jouets. Des poupées en passant par les vélos, les voiturettes, les instruments de musique. Tout un choix varié d'articles. Quelques parents en quête de jouets idéal rencontrés sont pour la plupart en mode visiteurs sur les stands.
Tout coûte cher. Donc même si avec nos maigres moyens, on va au marché, tout s'évapore dans la nature facilement. On ne sait même pas combien de fois, qu'est-ce qu'on a acheté pour que tel montant envoyé au marché puisse disparaître aussi.
Allez vendre d'abord, pour trouver l'argent d'abord, avant qu'il vienne acheter ça.
Je suis venu acheter un jouet pour mon enfant. Les choses sont chères, mais bon. C'est pas mal quand même.
La tristesse et le désespoir se lisent dans les yeux des vendeuses de jouets en boutique, tandis que celles ambulantes sont en peine sous le coup de la fatigue. Ceux qui vendent les produits vivriers et autres n'arrivent pas à s'expliquer le phénomène de la mévente qui s'est accentué cette année.
L'huile d'arachide
ceci ne peut pas coûter ce montant où on est au-delà de 35 000. Monsieur le Président Patrice Talon, nous disons toujours que le social, nous ne vous sentons pas assez. Il ne serait pas bien que sous le mandat du hautement social, que le maïs, que l'huile et autres, ces produits de première nécessité, continuent de coûter ces montants-là qui vraiment malmènent le quotidien du citoyen consommateur.
Mais pour le ministre de l'Agriculture, en finir avec la cherté des produits de grande consommation est une question qui interpelle la conscience collective. Gaston Dossoui est le ministre de l'Agriculture.
La conjoncture que nous traversons est soutenable si nous avons un peu de volonté. Plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, il nous faut simplement produire deux fois, trois fois plus que nous le faisons actuellement.
Cherté de la vie ou pas, les enfants attendent de la magie le 25 décembre et les parents doivent redoubler d'ardeur pour leur offrir une fête à la taille de leurs attentes. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Jeux Olympiques Maasai. Ça se passe au Kenya. Des centaines de personnes se rassemblent dans la réserve de Kimana, à 200 km de Nairobi, pour ces Jeux. Cet événement remplace le traditionnel Olamayo, un rite de passage Maasai qui consiste à chasser le lion en groupe pour les jeunes hommes de cette communauté afin de prouver leur bravoure. Le récit est signé Yakuba Ouedraogo.
Valentine Naïsimoui franchit la ligne d'arrivée sous les acclamations du public enchanté des Jeux Olympiques Maasai. Ces événements revisitent une tradition ancienne sur des herbes vallonnées dans la réserve de Kimana, à environ 200 km au sud de Nairobi. Alors que les guerriers Maasai devaient autrefois tuer un lion pour prouver leur virilité, la compétition remplace ici la chasse traditionnelle par le sport pour protéger les fauves menacés d'extinction.
Je peux dire aujourd'hui que depuis que nous avons lancé les Jeux Olympiques Maasai en 2012, il n'y a pas eu une seule chasse au lion planifiée par les guerriers.
Ces Jeux offrent aussi davantage de visibilité aux femmes comme Valentine, qui a participé à la course de 100 mètres.
La plupart des femmes se rendent compte qu'elles ont été abusées dans notre tradition. Elles sont juste là pour être mariées, pour rapporter des vaches à la famille, ce qui signifie plus de dot, mais certains événements comme ceux-ci sont agréables parce que les filles remarquent leur talent. Après avoir remarqué leur talent, elles vont travailler dur pour l'exploiter et l'aider à l'avenir.
Quelques 160 jeunes sportifs, parmi lesquels 40 femmes, s'affrontent sur des distances allant de 100 à 5000 mètres. Certaines disciplines ont été adaptées aux coutumes locales. Les rangous, des massues de bois destinées à se protéger des hyènes, remplacent les disques dans les épreuves de lancer. Et même si les femmes ne concourent ce jour que sur 100 et 1500 mètres, des projets sont envisagés pour les inclure davantage, assure le coordinateur Maasai, Samuel Kahanki.
Lorsque je participe à des réunions d'éducation, de nombreuses femmes me demandent pourquoi les femmes ne participent pas à ce programme. Nous avons donc commencé à les inclure dans deux épreuves, le 100 mètres et le 1500 mètres.
Créé en 2012 par des dirigeants communautaires et l'Organisation de protection de l'environnement Big Life Foundation, les Jeux ont été pensés pour préserver les lions de la région, qui étaient passés d'environ 30 000 dans les années 1970 à un peu plus de 2 000. Grâce à eux, estime Big Life Foundation, plus de 250 lions parcourent désormais l'écosystème d'Amboseli, contre moins de 20 au début des années 2000.
Ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au micro, Nanik Talani, à la réalisation, Georges Léonard Sagno, à la technique, Calvin Fowler. Nous vous tiendrons informés des dernières actualités tout au long de la journée. Pour des informations supplémentaires et des mises à jour continues, suivez-nous sur notre site internet voaafrique.com et nos réseaux sociaux. À bientôt.